en forme ce matin, on l'a vu dans les poignées de main puis dans l'esprit dans ce lieu ce matin. Amen. Je m'en venais en avant en chantant, puis quand j'ai vu que mon micro était ouvert, j'ai arrêté parce que j'ai dit « Je ne veux pas briser l'esprit de louange. » Dieu est merveilleux, hein? Parce que ce matin, il y a vraiment un esprit de louange dans ce lieu. Et moi, je vais vous amener un mot qui s'appelle, je vais vous parler ce matin d'un appel à la louange. La louange, ça devrait toujours être dans notre bouche une chose qui est précieuse. La louange, c'est pas juste le dimanche matin, la louange, ça devrait être dans nos cœurs à journée longue. À journée longue, on devrait avoir un esprit de louange. On devrait avoir des chants dans notre cœur. On devrait avoir une louange sur notre bouche. De toute façon, il faut se pratiquer parce qu'on va se pratiquer dans l'éternité. Hein? Parce que dans Apocalypse 7, ça dit, il y avait une grande foule devant le trône, les 24 vieillards, les anges et les quatre êtres vivants, et tous, ils louaient Dieu, puis ils disaient, car il est digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. La louange, c'est important. Un appel à la louange ce matin. On va regarder un passage. C'est dans Néhémie. Le passage, c'est le chapitre 9, le verset 1 à 5, ça dit, « Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et leurs iniquités de leur père. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, notre Dieu. Josué, Béni et, en tout cas, tous ceux-là, montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Béni et tous les autres, dirent, « Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. » Amen. Ils ont lu dans le livre de la loi pendant 3 heures, ils ont confessé leurs péchés pendant 3 heures, puis après avoir fait ça, il y a un appel à se lever et louer Dieu et lui donner la gloire et l'honneur. Amen. Ça finit par un appel à la louange. On dit, puis ressentez-vous des fois on vient à l'église, ça va pas vraiment bien, mais dans la louange, ça nous fait du bien. Dans la louange, on dirait que ça restarte notre cœur. Hein? Ça le replace devant Dieu. Ici, dans Néhémie, on voit vraiment un réveil. On voit un réveil dans Néhémie, un réveil extraordinaire. Et pourquoi qu'il y a un réveil dans Néhémie? Il y a un réveil dans Néhémie parce que Dieu a trouvé un homme. Dieu a trouvé un homme, Néhémie. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui était prêt à faire confiance à Dieu. Un homme qui était prêt, puis que Dieu aussi allait avoir confiance en lui. Puis Dieu avait trouvé Néhémie, puis on voit ça... Néhémie, lorsqu'il a entendu parler que Jérusalem était détruite puis que Jérusalem, ça n'allait pas bien, Néhémie dit, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Frères et sœurs, Dieu cherche encore des gens comme Néhémie aujourd'hui qui va prendre à cœur son œuvre. Qui va dire, « Moi, je veux m'impliquer. Moi, je veux faire son œuvre. Je veux prendre à cœur. » Néhémie a pris à cœur. A pris à cœur Jérusalem. Puis, il va dire un petit peu plus loin, lorsqu'il était rendu à Jérusalem, il dit, « Après cela, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Dieu y avait mis au cœur de faire des choses. Dieu y avait mis à cœur de faire des choses pour Jérusalem. Puis Dieu cherche encore dans l'Église des gens que Dieu va lui mettre au cœur de faire des choses pour son Église. Amen. De témoigner, d'amener la louange, d'amener de les prédications, de prier. Dieu cherche encore des gens. Amen. Et on voit ici dans Néhémie 9, 1 à 5 qu'on vient de lire, ils ont confessé le péché pendant 3 heures. L'autre morceau, c'est... Ils ont lu le livre de la loi pendant 3 heures, puis après ça, il y a eu un appel à la louange, un appel à louer Dieu pour ce que Dieu est puis pour ce qu'il fait. Amen. Puis la louange, c'est un cri du cœur. La louange, ça a toujours été le langage naturel des réveils. Amen. C'est le langage naturel des réveils. Dans chaque réveil, le ciel s'ouvre, puis Dieu descend au milieu des louanges de son peuple. Dans chaque réveil. Et là, c'est ce qui est arrivé. Dieu est descendu. La louange, ça détache nos yeux de nous-mêmes, puis ça tourne nos yeux vers le Seigneur. Amen. Puis ça nous fait du bien. Le psaume 22, le verset 4, ça dit, « Tu es le Saint. » Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. Lorsqu'on loue le Seigneur, Dieu est là. On louait le Seigneur ce matin, puis et qu'on était bien dans sa présence. L'espace d'un instant, on oublie toutes nos affaires. J'en oublie même mon jardin. Dieu était là, c'était merveilleux. C'est merveilleux. Puis la louange lors d'un réveil, c'est pas juste... Des fois, on dit, on va à l'église, puis nous, on a fait la louange, l'introduction. Après ça, c'est la prédication, la fraternisation. Mais souvent, lors d'un réveil, la louange, ça, c'est pas juste l'introduction. Ça devient le service. Ça devient le lieu où Dieu se manifeste. Où Dieu se manifeste puissamment, dans sa gloire, dans son honneur, dans sa puissance, dans sa majesté. Amen. On voit ça dans 2 Chroniques 5, le verset 13, ça dit, « Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même cœur pour célébrer, pour louer l'Éternel, ils firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et il célébrait l'Éternel par ses paroles, car tu es bon, car sa miséricorde dura toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie de nuée, et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. » Amen. Ce serait-tu beau un dimanche matin qu'on commence à louer Dieu, puis on ne peut plus s'arrêter. Puis on ne peut plus prêcher parce que la gloire de Dieu est là. Amen. Ça ne me fera rien de ne pas prêcher ce matin-là. Parce qu'on ressentira sa présence. On ressentira sa gloire, sa majesté. Puis ça brisera les cœurs. Ça brisera les esprits, mais ça les amènera devant Dieu afin qu'ils soient libérés, qu'ils soient guéris, qu'ils soient restaurés pour sa gloire. La louange, ça brise l'ennemi dans nos vies. Ça brise l'ennemi dans nos âmes. La louange, ça détruit l'ennemi. Dans 2 Chroniques 20, 22, ça dit, « Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus furent battus. » Dans la louange, il y a de la délivrance. Dans la louange, il y a de la restauration. Dieu brise les chaînes dans la louange. Dieu brise les chaînes. Lors des réveils, dans tous les réveils qu'on a pu voir, comme dans le réveil du Pays de Galles en 1904, je lisais un petit peu là-dessus, j'ai lu un peu là-dessus, puis des fois, il y avait Il y avait une assemblée qui était portée par un seul chant, qui était repris par toute l'assemblée. Puis personne prêchait, les larmes coulaient, les cœurs se brisaient sous l'effet des chants adressés à Dieu. Puis Dieu agissait puissamment dans les cœurs pour convertir, pour restaurer. Puis ici, dans Néhémie, ils avaient lu, ils avaient entendu les grandes choses que Dieu avait faites pour leur père. Leurs âmes s'étaient réveillées pour bénir Dieu Tout-Puissant, afin que Dieu les sauve, afin que Dieu les garde. Puis, lorsqu'ils ont réalisé ça, ils ont réalisé qu'il y avait plusieurs raisons de se lever et de bénir l'Éternel. Puis ce matin, nous aussi, on a plusieurs raisons de le louer, puis de le bénir, puis de l'adorer. Puis on va en regarder quelques-unes dans notre récit ici de Néhémie. On va en regarder 7. Premièrement, ils ont réalisé que Dieu, c'était le Dieu qui avait fait toutes choses. Ils ont réalisé ça parce qu'ils avaient oublié ça dans leur périple. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Le peuple d'Israël venait de réaliser que Dieu restera toujours le Dieu de toutes choses. Amen. Restera toujours le Dieu qui a fait toutes choses, le Dieu des cieux. Et le Dieu, le psaume 19, d'ailleurs, c'est ça que ça nous dit. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à un autre. Ce n'est pas une louange, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Amen. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas des sons, mais c'est quelque chose qui se reçoit par un cœur réceptif, ouvert à l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu se présente toujours comme le Dieu créateur dans la parole de Dieu. Dans Ésaïe 45, le verset 18, ça dit, « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite, qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Amen. Pour juste ce point-là, nous aussi, on pourrait réaliser comme le peuple d'Israël, puis on pourrait dire, nous aussi, levons-nous et louons l'Éternel, notre Dieu, d'éternité en éternité. Amen. Juste ce point-là. Mais les autres sont allés plus loin. Ils ont réalisé aussi que Dieu était un Dieu de grâce. Le verset 7 et 8, ça dit... C'est toi, Éternel, notre Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et que tu lui as donné le nom d'Abraham. Tu trouvas un cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Kirkasiens et tu as tenu ta parole car tu es juste. Amen. Un Dieu de grâce. Abraham, il a sorti par la foi, mais c'est par grâce qu'il fut choisi. C'est par grâce qu'il devint le père d'une multitude de nations pour établir une alliance aussi avec son peuple. Amen. Et nous aussi, la grâce, elle nous est offerte en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont accepté cet appel comme Abraham sont conduits dans un pays nouveau, dans un royaume nouveau. On entre dans une nouvelle vie. Par la foi. Amen. Par la foi. Un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce. 1 Pierre 5, 10, ça nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Un Dieu de grâce. Ce point-là aussi serait juste, ce point-là serait aussi correct. Puis ça serait assez pour qu'on puisse dire, comme le peuple d'Israël, levons-nous et bénissons l'Éternel, notre Dieu. d'éternité en éternité. Amen. Un autre point. Un Dieu qui répond à la prière. Le verset 9, ça dit, « Tu vis l'affliction de nos pères et tu entendis leur cri. » On a entendu une prophétie ce matin, quelqu'un qui dit, « Oui, Dieu a entendu ton cri. » Amen. Mais Dieu a entendu aussi le cri du peuple d'Israël. Un Dieu qui répond à la prière. Exode 3, 9, ça dit, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu les feras sortir. J'ai entendu, j'envoie la réponse. » Amen. Et dans nos vies aussi, Dieu entend et Dieu envoie la réponse. Dieu répond à la prière. Dieu voit encore l'affliction de son peuple aujourd'hui dans l'Égypte de ce monde. Parce que c'est un monde comme l'Égypte aujourd'hui. C'est un monde de méchanceté, un monde terrible. Le psaume 139, le verset 4, ça nous dit, « Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Amen. On n'a pas encore fini de crier que Dieu y avait déjà entendu. Il avait déjà entendu. Dieu entend. Dieu voit. Dieu entend. Dieu répond. Dieu répond à la prière. On n'aime pas toujours la réponse. Des fois, c'est oui. Des fois, c'est non. Des fois, c'est attend. Mais Dieu répond à la prière. Dieu répond à la prière. Puis juste à ce point-là, on pourrait dire comme le peuple d'Israël, levons-nous et bénissons l'Éternel, notre Dieu, d'éternité en éternité, parce qu'il est un Dieu qui répond à la prière. Amen. Dans nos vies, souvent, Dieu a répondu à la prière. Le quatrième point, ça dit, Dieu est un Dieu de délivrance. Le verset 10 à 12, ça dit, « Tu opéreras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. » Amen. Un Dieu de délivrance, sauvé de leurs ennemis, conduit par un chemin, accompagné par la nuée de Dieu. C'est-tu pas merveilleux, ça? Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Et Dieu peut faire la même chose dans nos vies. Dieu peut faire la même chose. Dieu peut nous conduire chaque jour par son Saint-Esprit. Le psaume 68, le verset 1, ça dit, ça dit pas. On va le lire. Ça veut dire, lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Psaume 68, le verset 1. Lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Et au verset 20, il va dire, « Béni soit le Seigneur, car Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. » Amen. Dieu est le Dieu des délivrances. Et Dieu est encore aujourd'hui le Dieu des délivrances. Amen. Ah, je l'avais. Dieu est encore le Dieu des délivrances. Délivre-moi de moi-même, Seigneur. Mais nous, frères et sœurs, la croix de Christ, c'est l'instrument par lequel nos ennemis ont été vaincus. Amen. Nos ennemis ont été vaincus. Le Saint-Esprit, c'est notre colonne de nuée qui nous guide chaque jour. Puis on est encore aujourd'hui, encore en présence du Dieu des délivrances. Amen. On est encore avec le Dieu des délivrances. Et juste pour ce point-là aussi, on pourrait dire comme le peuple d'Israël, « Levons-nous et bénissons l'Éternel, notre Dieu, d'éternité en éternité. » Amen. Un autre point, c'est que Dieu est un Dieu de révélation. Le verset 13, ça dit, « Tu descendis sur la montagne du Sinaï, et tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. » Un Dieu qui se révèle. Un Dieu qui dirige son peuple. Amen. La communication de Dieu avec ses enfants. Dieu se révèle. Dieu communique. Puis lorsque Dieu communique, c'est bien fait la communication. Amen. Aujourd'hui, on est à l'ère de communication, mais la communication, on dirait que des fois, ça ne va pas toujours bien. J'en ai eu un bon exemple la semaine passée à mon travail. J'ai reçu un coup de téléphone de mon patron, puis il dit « ça ne va pas bien dans tel magasin, une super plainte. » Puis il dit « ça ne va vraiment pas bien », puis il dit il trouve que le travail n'a pas été fait, etc., etc. Mais moi, quand j'allais là, je communiquais toujours avec l'assistant gérant, mais lui, il ne parlait pas au patron jamais. Donc, la communication ne se faisait pas. Donc, lui, il n'a pas demandé à lui. Puis là, finalement, fait que la communication de nos jours, ça ne se fait pas toujours bien. Mais lorsque Dieu se révèle, amen, Dieu se révèle correctement. Dieu se révèle, puis on ne peut pas se tromper. Puis Dieu veut encore se révéler aujourd'hui par sa parole, par le Saint-Esprit, par des visions, par des songes, par des prodiges, par des événements, par des prophéties, par des prophètes. Hébreux 1:1, ça dit, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et par plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Amen. Jésus-Christ, Dieu veut encore se révéler. Dieu veut encore parler aujourd'hui à travers des différents moyens. Quand j'étais un peu plus jeune, oui, j'ai eu plusieurs songes qui me montraient des choses spécifiques pour différentes personnes. Puis gloire à Dieu, ça m'a aidé vraiment. Ça m'a aidé à prendre des décisions. Et Dieu se révèle encore. Dieu se révèle encore. Dieu se révèle encore, puis c'est un autre aspect qu'on pourrait dire, comme le peuple d'Israël, « Levons-nous et bénissons l'Éternel, notre Dieu, d'éternité en éternité. » Un Dieu, le sixième point, c'est un Dieu qui pourvoit à tous nos moyens, à tous nos besoins. Le verset 15, ça dit, « Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. » Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Ils ont reçu le pain du ciel, la manne, l'eau du rocher, les promesses de Dieu pour leur futur. Jéhovah Jireh, à la montagne de Dieu, tu pourvoiras. Amen. Et on a encore le Dieu de Jéhovah Jireh aujourd'hui, qui est présent dans chacune de nos vies et qui veut pourvoir à tous nos besoins. À tous nos besoins. Philippiens 4:19, ça dit, « Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Luc 12, « Votre Père sait que vous en avez besoin. » Votre Père, il connaît nos besoins. Et avant même qu'on le dise, il connaît nos besoins. Philippiens 4:5, « Ne vous inquiétez de rien, 4-6, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce, Et le Dieu de paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Dieu nous invite à venir à lui, exprimer nos besoins. Quand je pense à nos besoins, je pense toujours à un homme qui s'appelait George Mahler. Il a vécu dans les années 1800, mais j'ai lu son livre, ça m'a toujours resté dans la tête. Il a prêché pendant 66 ans. Il est mort à 92 ans. Il a eu un ministère auprès des orphelins, des milliers et des milliers d'orphelins. Il a fait construire des orphelinats, puis il n'a jamais demandé de salaire. C'est le fun d'un pasteur qui ne demande jamais de salaire. En 66 ans, il n'a jamais demandé de salaire. Il n'a jamais demandé d'argent pour tous ses orphelinats. Pourtant, il les a toujours achetés cash. Jamais demandé une scène. Mais lui, il disait, « Moi, je crois que Dieu est souverain puis que Dieu peut pourvoir à tous mes besoins sans que j'aille à le demander à des personnes. » Il dit, « Je vais le demander à Dieu, puis Dieu suscitera des personnes qui m'enverront de l'argent pour que je puisse faire l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé. » Puis lui, il a toujours demandé les choses à Dieu. Et il dit dans son livre, ils n'ont jamais manqué de rien. Tous ces orphelinats, puis toutes ces choses, ils n'ont jamais manqué de rien. Puis je lisais un jour, il s'en allait pour acheter un autre manoir pour son orphelinat, puis le gars ne voulait pas vraiment le vendre. Puis il y a quelqu'un qui lui a dit, si Georges Mahler a commencé à prier pour ça, t'es bien mieux d'y vendre. Parce qu'il va l'avoir d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il dit, lui, quand il demande à Dieu, c'est fait. On a besoin encore des gens de foi aujourd'hui. On a besoin encore des gens de foi qui vont prier pour les besoins puis que Dieu va répondre. Amen. Dieu connaît nos besoins. Des fois, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça gagner 1 million. Mais il faut croire que ce n'est pas un besoin parce que je ne l'ai pas. Ça doit être, comme j'ai dit mercredi, un mauvais désir. Peut-être que ça m'éloignerait de Dieu. Peut-être que ça m'amènerait à faire des erreurs. Des fois, ce n'est pas vraiment des besoins qu'on prie des fois. C'est des envies, des désirs. Mais on a dit, Dieu connaît nos vrais besoins. Amen. Nos vrais besoins. Les besoins de notre âme, les besoins pour notre propre vie. Dieu veut encore donner du pain du ciel aujourd'hui dans nos vies en Jésus-Christ, au travers de sa parole. L'eau du rocher, c'est encore le Saint-Esprit. Ses promesses sont encore oui et amen. Amen. Afin qu'on pourrait dire comme le peuple d'Israël, levons-nous et bénissons l'Éternel, notre Dieu. D'éternité en éternité. Un autre point, le septième, c'est un Dieu qui est patient et miséricordieux. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnes pas au désert et la colonne de nuée ne cesse point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu pour les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Amen. Un Dieu patient, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui est lent à la colère, mais qui est riche en bonté. On voit ça dans la parole de Dieu, ça dit qu'il détruit les adversaires pour 100 ans, mais il bénit les enfants pour 1000 générations. Ici, les enfants d'Israël, ils étaient désobéissants au désert, ils refusaient d'obéir, ils étaient rebelles, ils étaient idolâtres. Mais Dieu, au lieu de répondre à leur ingratitude, par leur incrédulité, par un jugement, il les a pardonnés à plusieurs reprises. Amen. Il les a pardonnés. Puis ici, pendant que les Lévites lisaient le livre de la loi, ils se souvenaient de la bonté de Dieu, de sa miséricorde. Puis c'est pour ça que leur cœur était touché. Et nous aussi, les frères et sœurs, on n'a pas été punis pour ce qu'on méritait, parce qu'on était des pécheurs. On méritait la mort. Mais on a reçu ce qu'on ne méritait pas, la grâce de Dieu, son amour, sa miséricorde, sa bonté, Amen. Son pardon à chaque fois qu'on tombe. Puis là, ici, il était touché. Il était touché. Il se souvenait des bontés de Dieu envers eux. Ça dit au verset 17, « Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils rendirent leur coup. Ils raidirent leur coup. Et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour détourner leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu. Tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Et tu ne les abandonnas pas. » Amen. Et tu ne les abandonnas pas. Puis pendant 40 ans, Dieu a pourvu à tout leur entretien dans le désert et ils ne manquèrent de rien. Ils ne manquèrent de rien. Parce que Dieu voyait qu'il restait du bon au milieu d'eux. Amen. Puis ce point-là, ça peut nous parler aussi. Puis ça peut nous montrer comment que Dieu est patient. Comment Dieu est patient et miséricordieux envers nous. Comment qu'il nous accompagne sur notre chemin. Comment qu'il pourvoit nos besoins. Comment est-ce qu'il pardonne nos iniquités, nos manquements, nos infidélités? Même si nous, on est infidèles, Dieu est fidèle. Et ça aussi, c'est toute une raison qu'on pourrait dire comme le peuple d'Israël, « Levons-nous et bénissons l'Éternel, notre Dieu, d'éternité en éternité. » Amen. Cette raison qu'on a vue dans ce qu'on a vu dans le livre de Néhémie, cette raison qu'on a de louer et de bénir Dieu. La première, parce que Dieu est le Dieu de toutes choses, le Dieu créateur. C'est le Dieu qui a fait toutes choses. Et on doit lui donner la louange et la gloire pour ça. Deuxièmement, un Dieu de grâce, un Dieu qui nous a fait grâce. C'est merveilleux, ça. Aujourd'hui, dans notre société, il n'y a plus grand-chose qui veut nous faire grâce. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Troisièmement, un Dieu qui répond à la prière. Aujourd'hui, on a besoin. Dieu est là. On a quelqu'un qui entend, quelqu'un qui voit, quelqu'un qui nous veut du bien. C'est merveilleux, quelqu'un qui nous veut du bien. Aujourd'hui, ils veulent notre bien, puis nous autres, on dit tout le temps, ils vont l'obtenir. Mais lui, Dieu, il nous veut vraiment du bien. Et lui, il nous dit qu'il va vraiment nous le donner. Quatrièmement, un Dieu de délivrance. Un Dieu de délivrance. On a besoin de délivrance. Allons devant notre Dieu. Allons devant lui avec un cœur de louange, un cœur d'adoration. Attendons-nous à lui pour la délivrance. La délivrance de choses dans nos vies qu'il y a juste Dieu qui peut nous délivrer. Juste Dieu qui peut nous délivrer. Un Dieu de révélation. On a besoin de révélation. On a besoin que Dieu nous parle. On a besoin d'avoir un but dans notre vie, d'avoir une direction. Mais Dieu est un Dieu de révélation. Dieu est un Dieu de révélation. Amen. Avec Dieu, on peut avoir des réponses au but de nos vies. Au but de nos vies. Un Dieu de révélation. Un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. À tous nos besoins. Et un Dieu patient et miséricordieux. Et ces sept raisons-là sont toutes des raisons de dire « Levons-nous et bénissons l'Éternel, notre Dieu, d'éternité en éternité. » Amen. On va demander aux musiciens de s'avancer. On va terminer avec un chant. Et ce matin, souvent, on veut s'avancer devant Dieu afin que Dieu réponde à des choses pour nous, afin que Dieu nous... On a des besoins, on a des choses. Mais ce matin, lorsque vous allez vous lever dans la louange, approchez-vous de Dieu et ce matin, offrez-lui votre louange. Offrez-lui votre cœur. Offrez-lui, venez devant lui avec un cœur plein de louanges, plein d'adoration, afin que Dieu soit béni par son peuple, que Dieu soit béni par cette assemblée. Prions ce matin. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour tes enfants. Merci, Seigneur, que tu es un Dieu, Seigneur, miséricordieux. Un Dieu qui prend soin de nous. Merci, Seigneur. Ce matin, on veut t'élever nos cœurs en louange devant toi, afin de te bénir, de te rendre grâce, de te dire merci pour tous ces privilèges qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Te bénir ce matin, parce que tu mérites l'honneur et la gloire et la louange au siècle des siècles. Levons-nous ce matin, bénissons l'Éternel, notre Dieu, d'éternité en éternité, qui a rendu toutes choses possibles dans nos vies et qui a à cœur chacun de nous pour sa gloire.